pensez-vous de l'utilisation de la vidéosurveillance ? Qui peut la regarder ? Quels sont les cas où on s'en sert ?
Alors, ce que je pense de la vidéoprotection, en tant que professionnel, je n'ai pas d'avis à porter, puisque c'est une décision politique d'installer la vidéo sur l'espace public. Vous avez vu qu'à Grenoble, ils étaient dans la posture à vouloir enlever les caméras. Nous, et Échirolles, le maire a souhaité mettre les caméras en place sur certains territoires qui étaient ciblés par rapport à des problématiques de stupéfiants, par exemple, d'occupation de l'espace public par des individus, mais qui l'occupent en toute impunité et qui dérangent la quiétude ou la tranquillité des lieux. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, qui peut la regarder, c'est les opérateurs de vidéoprotection. Alors, ils peuvent être des agents assermentés pour pouvoir visionner les vidéos, ou alors ça peut être des policiers municipaux. Le cas où on s'en sert, il y a différentes façons de se servir de l'outil. C'est où on met des caméras et on met un lieu de stockage, d'enregistrement, 100 mètres de personnes derrière les écrans, et puis quand il se passe quelque chose, on va aller chercher les images parce qu'une personne est venue se plaindre et puis on va essayer de voir ce qui s'est passé. Ou alors, il y a une autre façon de faire, et c'est ce que nous, on fait à Échirolles, c'est qu'on a des écrans dans une salle. Du coup, nous, le choix qu'on a fait, c'est de mettre des opérateurs derrière les écrans. Et le fait de mettre les opérateurs derrière les écrans permet plusieurs choses. Permet, dans un premier temps, s'il se passe quoi que ce soit, d'amener une réactivité sur le traitement de l'événement. Permet, sous un autre volet, permet aux policiers municipaux, quand ils interviennent sur des territoires, de sécuriser leur intervention. Et ça peut être aussi un outil de gestion urbaine, puisque on essaye de tenir des territoires, notamment des zones piétonnes, où on fait en sorte à ce que des véhicules n'aillent pas sur ces territoires-là. Et ça peut être un outil qui sert à la verbalisation, du coup. Et voilà, du coup, ça permet ces différentes facettes. Et puis même quand les agents de la voirie ou de l'élagage vont sur ces territoires-là où il y a de la caméra, on peut appuyer à l'aide de la vidéo leurs interventions pour qu'elles se passent au mieux.
Y a-t-il suffisamment de caméras à Échirolles ?
Il y a beaucoup de caméras à Échirolles. Les gens ne savent pas qu'il y a autant de caméras sur le territoire. Alors en chiffres, il y a une cinquantaine de caméras sur Échirolles. Et le dispositif va d'ailleurs évoluer puisqu'on va rajouter des caméras dans d'autres secteurs de la ville. Alors les secteurs où il y a de la caméra aujourd'hui, c'est surtout le secteur Villeneuve dans pratiquement sa globalité. Le stade nautique, quand vous allez à la piscine, on vous voit. Alors si vous êtes en maillot de bain, on vous voit en maillot de bain. Sur certains bâtiments communaux, donc ça permet de sécuriser les bâtiments communaux. Et là, alors, à la demande de la population notamment, la vidéo va être étendue. Alors qu'au début, ça faisait, tout à l'heure, Eric, de l'utilisation de la vidéo, ça a fait débat, puisqu'il y avait les pour et les anti. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes, au-delà des gens qui ont des idéaux, beaucoup de personnes demandent la vidéo. Ils pensent que pour eux, ça va solutionner leurs problèmes au quotidien. Or, la vidéo, à elle toute seule, ne va pas gérer le problème. C'est un outil d'aide au traitement de la délinquance sur le territoire. Mais ce n'est pas la vidéo qui solutionne le problème. Elle va peut-être faire déplacer le problème, mais pas forcément le solutionner. Le dispositif est en train d'être étendu. Et d'ailleurs, on a aussi, avec les bailleurs, un bailleur social. En partenariat, on a de la vidéo dans les montées des HLM. On a la vidéo qui est transférée chez nous. Bien sûr, il y a un protocole bien défini avant que nous on reçoive les images, mais les caméras, il y a un transfert d'images qui peut se faire chez nous. Voilà, c'est déjà conventionné, c'est déjà en marche. Voilà.
Oui, combien de temps gardez-vous les vidéos ?
C'est des sujets sensibles. Hein, quand on parle de vidéos, forcément, on va parler d'atteinte aux libertés individuelles. À partir de là, il faut qu'on cadre les choses. Il y a un organisme qui est une autorité administrative indépendante qui s'appelle la CNIL, qui est là pour veiller justement à la bonne utilisation de la vidéo. Mais indépendamment de la CNIL, on a une autorité administrative qui est le préfet, qui veille justement à la bonne utilisation de cet outil-là par le biais d'une commission. Il y a une commission de la vidéo au niveau départemental qui, elle, valide ou invalide les projets de vidéo. Donc voilà, c'est très réglementé. Et dans ce cadre-là, la loi prévoit qu'on peut stocker les images pendant 30 jours. C'est la loi. Si on stocke des images pendant 40 jours, on est hors la loi. Alors là, tout le monde descend. La CNIL, le préfet, et puis le maire reçoit. Et si le maire reçoit, c'est Kamel qui va recevoir derrière. C'est comme ça que ça se passe. Donc, alors nous, à Échirol, comme la loi dit, on peut aller de 0 à 30 jours. À Échirol, on a fait le choix de garder les images pendant 15 jours.
Et avez-vous le droit d'utiliser des vidéos de surveillance privée, style magasin ou autoroute ou autre ?
Aujourd'hui, non. Carrefour, quand il veut mettre de la vidéo, c'est lui qui va faire la demande de mettre de la vidéo. Il va demander au préfet. Il en informe le maire, effectivement, que Carrefour va mettre de la vidéo. Donc, chacun met la vidéo chez lui comme il l'entend, mais que chez lui. Le maire peut le mettre sur l'espace public, les bailleurs sociaux ne peuvent pas mettre de la vidéo sur la voie publique. Ils peuvent mettre de la vidéo que dans les parties communes, privatives de la montée. Donc nous, on visionne pas ce qui se passe à Carrefour. Aujourd'hui, la loi, elle le prévoit pas. La loi, elle prévoit, la loi de 2011. En fait, le texte, il dit que le bailleur social, par le biais d'une convention passée avec le maire, peut transférer les images dans un centre de vidéo au sein de la commune sur l'instantanéité de l'événement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se passe quelque chose pour transférer les images. S'il ne se passe rien, l'écran chez nous, il est noir. On ne voit rien. Quand il se passe quelque chose, vous allez dire, comment vous avez les images ? Ben, en fait, aujourd'hui, la technologie permet de détecter, par exemple, un attroupement d'individus quand il reste, je ne sais pas, 3 minutes au même endroit. Il y a quelque chose qui se déclenche au niveau de la vidéo qui alerte un agent d'astreinte du bailleur social qui, lui, transfère l'image par le biais d'un smartphone à la police municipale. C'est technologique tout ça, mais moi, je ne maîtrise pas. Je sais juste que les images arrivent chez nous. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais nous, on ne voit pas les images 24 heures sur 24. C'est que quand il se passe quelque chose et quand c'est fini, le bailleur social coupe l'image.
Ouais, pas de problème.
Là, je lui demandais, les journées de monsieur consistaient à quoi, à son travail ?
Ah, mes journées à moi, elles consistent à de mettre en place ou d'orienter les missions des policiers municipaux, mais aussi des opérateurs et des ASVP. C'est-à-dire que moi, je donne les orientations et puis mes cadres les mettent en exécution. Donc ça, c'est sur la partie opérationnelle. Après, il y a la partie plus conception, où là, je suis en lien avec le maire et le premier adjoint, où je dois mettre en place une politique de sécurité. Et ça, ça demande de l'imagination. C'est-à-dire qu'il faut créer des choses. Et créer en matière de sécurité, c'est pas forcément évident. Parce que les gens, ce qu'ils attendent, c'est surtout qu'on soit répressif. Ils attendent une réponse. Il faut venir verbaliser. Et du coup, moi, c'est comment j'arrive à trouver des formules ou des... C'est comment passer, en gros, du souhait ou du vœu du maire et du premier adjoint à l'application. Ça, c'est mon travail. Voilà. Et c'est aussi faire remonter les choses au maire sur, voilà, il se passe telle chose sur tel territoire, il faudrait la traiter de telle façon. Il faut aussi, quelque part, être force, dans certains cas, force de proposition. Il faut savoir proposer des choses au maire.
Est-ce que en cas de changement de municipalité, du coup, les éléments de la police municipale peuvent être changés avec le pouvoir du nouveau maire, hein ?
Oui. Quand ça change de municipalité, effectivement, il va avoir une orientation totalement décalée par rapport à la municipalité précédente, pardon. Donc, du coup, si je dis, voilà, aujourd'hui c'est communiste à Échirol, si demain ça passe à droite, être sûr qu'il y aura une police totalement différente. Peut-être qu'il y aura 40, 50 agents. Peut-être que la mission première, ça sera verbaliser tout le monde. J'extrapole, hein. Je trace un peu le trait pour justement faire voir que l'orientation est impulsée par le politique.
les missions sont différentes, mais nos textes sont les mêmes. C'est-à-dire que nous, on est là pour appliquer des textes. Donc après, c'est la lecture du texte, comment elle se fait. Et c'est le politique qui va essayer de donner une lecture du texte.
Voilà. Mais il n'a pas le pouvoir de vous licencier à sa nouvelle élection s'il y a un changement de mandat.
Ah, ça, c'est encore une autre question. Moi, je suis un peu sur un poste à siège éjectable, comme on dit. Effectivement, dans le cadre de la libre administration des politiques publiques, le maire peut ou ne pas avoir une police municipale. Ce n'est pas une dépense obligatoire, la police municipale. Si le maire, ça change de municipalité, dit « je ne veux plus de policiers municipaux », c'est où on mute, c'est-à-dire qu'on cherche une autre commune pour rester policier municipal, ou alors il dissout sa police municipale et il nous réaffecte dans certains services. En France, il y a à peu près 36 600 communes, 36 600 mairies. Il n'y a pas 36 600 polices municipales. Vous allez avoir à peu près 4 700 communes qui ont des polices municipales. Le reste, vous voyez que ce n'est pas une dépense obligatoire, non, pas de police municipale.
Y a-t-il des heures
où on a le droit de travailler ou pas?
Oui.
Je vais revenir sur le texte de tout à l'heure, de 1999, qui faisait que avant 99, la police municipale, elle travaillait comme un employé de la ville. Il n'y avait pas d'horaire, en gros. Hein, on pouvait travailler de nuit comme de jour, toutes ces choses-là. Ce texte de 1999, il est venu porter aussi l'armement, dire qu'à un moment, les policiers municipaux peuvent être armés. Et que du coup, au-delà de l'armement, il pose aussi les horaires de travail. Il dit que si on est plus de 5 policiers municipaux dans un service, on est obligé de signer une convention avec la police nationale. On est obligé de signer la convention. Et le fait de signer cette convention nous permet de travailler 24 heures sur 24. Sans cette convention-là, la police municipale n'a pas le droit de travailler entre 23h et 6h du matin. Le danger n'est pas le même. On sait qu'au-delà de 23h, on a affaire à des individus qu'on ne voit pas forcément en journée. C'est un autre type de délinquance. À Échirolles, nous, on l'a, cette convention de coordination. Elle est signée puisqu'on est... Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait être minimum 5 agents pour signer cette convention. Nous, on est pratiquement 16 agents. Donc on a signé cette convention, on peut travailler 24 heures sur 24.
Kamel, souhaiterais-tu rajouter quelque chose à l'interview d'aujourd'hui ?
Mon analyse de cet exercice, qui pour moi est pas... Je ne suis pas habitué à ces exercices-là. Et mon sentiment... Mon analyse, c'est que j'ai trouvé que déjà vous, parce que moi aussi je vous ai observé, vous étiez très bien, très à l'aise, vous avez su me mettre à l'aise et vous avez surtout posé des questions très très pertinentes, des très bonnes questions où même moi, en fait, quand je suis dans le travail, j'y pense même plus. Et du coup, j'ai trouvé ça très très intéressant. Et vraiment, je vous souhaite de continuer dans ce type d'initiative. Alors, je ne veux pas juger de la chose, mais je sens que déjà, vous avez un projet qui est plus que mûri, bien défini, clair. Vous savez qui aller chercher comme intervenant. Et ça vous permet, du coup, de bien comprendre qui on côtoie quasiment au quotidien, comment fonctionnent les institutions et tout ça. Et ça, c'est... Moi, à la fois, je vous félicite, mais je vous invite à continuer là-dedans. C'est très enrichissant. À titre personnel, je tenais vraiment à vous remercier de m'avoir convié au plateau radio, parce que même pour moi, toute expérience, et je le dirai toujours, toute expérience est riche d'enseignements. Et aujourd'hui, j'en tire aussi une valeur ajoutée pour moi. Voilà, pour moi, c'est du bénéfice, tout bénéf. Voilà. Merci.